Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir avec Catarina Falcao de la rédaction en portugais.
Bonne nuit à toutes.
Avec vous, nous reviendrons sur ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, une bien étrange affaire. Daniela Franco de la rédaction brésilienne.
Hola, bonne nuit.
Pour un risque de guerre entre le Venezuela et le Guyana au sujet de la région de l'Essequibo. Et pour la rédaction en espagnol, Ubaldo Bravo.
Hola, muy buenas noches.
Avec lequel nous feuilleterons 100 ans de solitude du prix Nobel Gabriel Garcia Marquez, un écrit à relire à la faveur du réchauffement climatique. Ben justement, dans Action du Monde, parlons de cette COP28 qui en est à mi-parcours. Et alors que s'engage la dernière ligne droite des négociations, les sujets de discussion, ou plutôt de tractation, ne manquent pas. Il y a quelques jours, le président français appelait à la fin du charbon. En ce moment, cela négocie ferme sur le pétrole. Les énergies fossiles qui sont donc au cœur de cette COP 28, de cette COP 28, pardon, c'est la 28e. Daniela, le Brésil accueillera la COP 30, et c'est dans 2 ans. Le Brésil qui a beaucoup d'ambition au niveau environnemental. De quelle manière le pays traite justement cette question du pétrole à Dubaï ?
De façon très prudente, Philippe, il est vrai que depuis que Lula a repris le pouvoir, le gouvernement veut montrer son engagement. Il veut se montrer comme leader de la lutte contre les changements climatiques, spécialement après le gouvernement négationniste de Jair Bolsonaro. Mais selon notre envoyé spécial à Dubaï, Lucia Mizel, la délégation brésilienne à la COP28 n'est pas en train de pousser des décisions très ambitieuses. Par contre, si un consensus international pour la fin des énergies fossiles est atteint, le Brésil n'ira pas s'y opposer. C'est là, selon le négociateur-chef du Brésil à la COP28, André Correa do Lago, on va l'écouter.
I believe that when we are talking about fossil fuels, and this is a huge debate here at this COP,
quelle est sa position?
Lago dit que quand on parle des énergies fossiles, il est nécessaire de considérer deux choses. Ce que les pays peuvent faire individuellement dans leur territoire et comment le débat à propos des énergies fossiles sera réalisé d'une façon générale au niveau international. Par contre, il croit que le débat international sur cette question n'est pas encore structuré et il est nécessaire de l'améliorer. Selon le négociateur brésilien à la COP, le Brésil, par exemple, a beaucoup d'options pour remplacer les énergies fossiles, mais il faut en discuter. Il dit qu'il est surtout nécessaire de faire un débat démocratique avec toute la société pour qu'on sache comment gérer cette question.
Et le Brésil, qui est mis sous pression par des ONG à cause des contradictions liées à ses projets d'augmenter en même temps l'exploitation de pétrole.
Exactement. Ouais. Et au-delà des projets d'augmenter l'exploitation du pétrole, le Congrès brésilien, qui est dominé par l'opposition, a approuvé récemment une mesure pour encadrer les éoliennes en mer. Et ce texte prévoit aussi la prolongation des subventions aux centrales thermiques au charbon, potentiellement jusqu'à 2050. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, après la fin de la COP28, le Brésil va réaliser des enchères records de 600 blocs d'exploitation de pétrole et gaz, y compris dans la région amazonienne. Et de plus, l'annonce de Lula à Dubaï, samedi dernier, il a dit que le Brésil va rejoindre l'OPEP+. Il a été très critiqué, c'était très mal perçu. Selon le président brésilien, son but est de convaincre les principaux pays producteurs de pétrole à préparer la transition énergétique sans de combustibles fossiles. Mais les ONG et les spécialistes doutent de l'efficacité de cette politique.
Oui, il veut rejoindre l'OPEC finalement pour la réformer de l'intérieur, si on comprend bien, mais ça ne convainc pas. Au moins le Brésil, en tout cas, est-ce qu'il se donne les moyens de sortir du charbon ?
Le bouquet énergétique du Brésil aujourd'hui se compose seulement de 2% de charbon. Environ 33% de l'énergie brésilienne vient du pétrole. On va écouter Rosana Santos, qui est directrice du think tank Transition Énergétique, qui participe de la COP28 comme observatrice des négociations.
Écoutons-la.
Ouais.
Existe dentro do nosso Congresso, talvez dentro das pressões da nossa sociedade, conjunto.
Rosana dit que le Brésilien, le Congrès brésilien et même la société brésilienne n'a pas encore compris ces points positifs, la possibilité de sortir facilement du charbon, et que le Congrès est en train d'approuver des mesures qui peuvent justement menacer cet avantage, Philippe.
Alors, voilà pour le pétrole. Il y a aussi le méthane, qui, après le CO2, est le deuxième gaz à effet de serre contribué contributeurs au changement climatique. Il y a deux ans, les entreprises et les pays pétroliers s'étaient engagés à réduire les émissions de ce gaz en signant un accord appelé Global Methane Pledge. Ubaldo Bravo, où est-ce qu'on en est ?
Oui Philippe, comme tu viens de le dire, ils se sont engagés à réduire les émissions de méthane d'origine anthropique de 30% d'ici à 2030. Un projet parti à la dérive car il s'agissait uniquement d'engagements volontaires, certes vertueux mais non contraignants. À Dubaï, on voit que ce sujet est repris. Ils ont annoncé une série de mesures pour mettre en œuvre cet accord, comme l'arrêt du torchage, qui consiste à brûler l'excédent de gaz lors de l'exploitation du pétrole et qui est responsable d'une grande partie des émissions de méthane au niveau mondial. Il y a aussi la proposition d'éliminer ce torchage des nouvelles installations. Une autre mesure serait d'imposer aux entreprises de surveiller les fuites de méthane à l'aide des technologies à bas coût et innovantes.
Vous dites serait, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnel. Ces mesures sont-elles contraignantes ou pas ?
Non. Pour l'instant, la mise en place de ces actions reste encore un engagement volontaire. On est en train de voir le même scénario de 2021. Des annonces vertueuses, pleines de bonnes intentions, mais rien de concret. On ne voit pas une volonté politique pour rétablir un cadre juridique avec des règles contraignantes. C'est pour cette raison que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, considère que ces annonces sur le méthane ne sont pas l'auteur, même si des gros producteurs pétroliers se sont engagés, y compris les Émirats arabes.
Ubaldo, quelques jours avant cette COP28, l'Union européenne était arrivée à un accord visant à lutter contre les émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Est-ce que c'est là un exemple pour réduire les émissions justement de méthane ?
A priori, oui, parce qu'on voit une volonté politique pour lutter contre les changements climatiques avec les lois. Pour l'instant, on ne peut pas savoir quelles seraient les sanctions pour ceux qui ne respectent pas le règlement, car l'accord européen n'est que provisoire et doit encore être approuvé par les ministres de l'Union européenne et les parlements. En tout cas, les experts demandent d'arrêter les engagements volontaires et de passer à l'établissement des lois contraignantes à l'échelle mondiale.
Les producteurs européens ont quasiment banni les torchages de routine hein, dont vous parliez tout à l'heure. En revanche, ce sont les pays fournisseurs de l'Europe qui n'ont rien fait. Alors, est-ce que l'Union européenne va les sanctionner pour cela ?
Et oui, pour l'instant, ce n'est pas Philippe. On va de même aux États-Unis avec la nouvelle taxe méthane portée par Joe Biden imposant des lourdes amendes et qui doit être en vigueur en 2024. Est-ce que ExxonMobil, la puissante société pétrolière américaine, serait sanctionnée par les éventuelles fuites de méthane à l'étranger, par exemple au Mexique, ou si cela se passe uniquement au Texas ? C'est pour cette raison qu'il est impératif de parler de la transparence et du partage d'informations entre nations. Pour en savoir plus sur ces sujets, notre collègue Raphaël Morin de la rédaction espagnole a parlé avec Daniel Zavala-Raisa de la ONG Environmental Defense Fund. Je vous propose de l'écouter.
Hemos visto desde el sábado una serie de combinaciones. En cuanto a del lado de la regulación, vemos por
ejemplo. Quand tu parles de combination, de quoi parle-t-il ?
Oui, en fait, le chercheur demande une coopération entre les gouvernements et les compagnies pétrolières afin de mettre en place un système de transparence sur les émissions de méthane. Et cela dès que possible, puisque les émissions de méthane sont beaucoup plus alarmantes. Il assure que les données des entreprises et des gouvernements ne sont pas à jour. Selon les chercheurs, les résultats des enquêtes menées par son ONG démontrent que la quantité des émissions de méthane est beaucoup plus élevée que celle enregistrée par les nations. Pour lui, il est impératif de réduire les émissions ainsi que de partager les informations, et surtout du méthane, qui est responsable d'environ un tiers du réchauffement planétaire.
Autre dossier de cette COP à Dubaï, sachant que l'argent est le nerf de la guerre, et cela vaut pour la guerre contre le réchauffement climatique, il y a ce fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Son adoption est une avancée pour aider les pays moins polluants qui essaient de trouver différentes stratégies pour combattre ce réchauffement climatique. Katharina Falcao, pour l'instant, on parle d'un fonds, mais il se chiffre à... Combien d'euros ?
Effectivement, ce fonds est plein de promesses. Voilà, beaucoup d'euros en promesses, beaucoup de dollars en promesses. L'Union européenne a promis du 125 millions d'euros. Les Émirats arabes unis, 5 millions de dollars. Il faut être des bons hôtes quand même. Le Royaume-Uni, 40 millions de livres. Mais après tellement d'années d'attente, personne ne croit plus à ce fonds. Surtout en Afrique, un continent constitué par des pays qui souffrent énormément des conséquences du réchauffement climatique, sans pour autant forcément beaucoup peser dans ce phénomène.
Alors, qui vous a dit que l'Afrique ne croit pas à ce fonds ?
Bon, déjà, on a notre collègue en place, Christiane Soage, notre envoyée spéciale au Dubaï. Elle a pu interviewer l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopes. Il fait partie du comité consultif de la COP28. Cet académicien nous a raconté que depuis 14 ans, presque 1 billion de dollars, je dis bien 1 billion, ont été promis pour aider les pays qui souffrent les conséquences du climat, mais que personne ne croit plus.
Nous devons avoir des fonds de financement qui sont prévisibles et qui sont régulables.
Carlos Lopes, en français, Lopes, en portugais.
Il nous dit que les dons ne servent à rien et qu'il ne faut pas que ce soit fait comme des aides au développement. Parce que si les pays africains sont dans cette situation, c'est parce que les grandes puissances au niveau mondial ont été responsables de la détérioration du climat en général. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées innovatrices en Afrique.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner concernant les pays lusophones en Afrique aussi, puisqu'il y a des pays lusophones en Afrique?
Voilà, mais des pays lusophones en Afrique, bien sûr. Pour parier dans le développement durable, au lieu de s'aligner avec le marché prédateur des dettes, le Portugal et Cap-Vert ont conclu récemment un accord pour transformer la dette capverdienne envers le Portugal dans un fonds environnemental et climatique. Les premiers projets de ce fonds, qui comptent environ 12 millions d'euros, vont servir à créer des énergies renouvelables. Le but du Cap-Vert, un archipel au large du Sénégal, c'est de produire 50% de son énergie jusqu'à 2030. Pour le premier ministre capverdien, Ulysses Correia Silva, que Christiane Soares a interviewé à Dubaï, il s'agit d'un exemple pour des autres pays africains.
Et nous conseguimos mostrar, porque houve vontade política, houve trabalho técnico, houve...
Alors ce premier ministre capverdien, il essaie de mettre en avant un accord, cet accord à Dubaï?
Bien sûr, pour la mise en avant de cet accord, le Portugal et Cap-Vert ont même signé symboliquement le document à Dubaï. Pour le premier ministre capverdien, il s'agit d'un cercle vertueux parce qu'avec moins d'argent dépensé pour les énergies fossiles, il aura forcément moins de dettes pour les pays qui ne produisent pas de pétrole. Selon lui, ça c'est le chemin durable pour avoir des finances plus équilibrées et pour un avenir plus durable. Si cette première expérience, 12 millions d'euros, contribue à cet effort, le Portugal a déjà promis de transformer encore 140 millions d'euros de dettes en investissement.
Le Portugal est donc bien magnanime.
Voilà, mais non, là c'est la réelle politique. Comme l'on dit au Portugal, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Détenant beaucoup d'entreprises spécialisées dans la transition écologique, l'accord prévoit que la passation des marchés se fasse avec des entreprises portugaises ou un partenariat entre Cap-Verdiens et Portugais.
Catarina Falcao, cette COP, ce n'est pas seulement de l'argent?
Non, et on parle aussi du rôle des jeunes. La nouvelle génération au Mozambique est à Dubaï et ils veulent avoir un siège à la table des discussions sur le futur du pays par rapport au changement climatique. Nous avons pu interviewer Neil Yuzu de la plateforme Jeunesse pour Action Climatique à Dubaï.
Les crianças et jovens constituent mais de 50% de la population moçambicana. Qualquer evento climático extremo, seja seca, inundações, ciclones...
Voilà, il nous dit que la moitié de la population Mozambique est composée d'enfants et jeunes et que l'agenda du climat leur appartient parce que tous les phénomènes extrêmes vécus par le Mozambique, comme les crues, la sécheresse, les cyclones, impactent directement les enfants et les jeunes. Et aussi parce que la littératie climatique permet l'appropriation de cette cause et c'est à qui appartient l'avenir.
Et voilà, donc à quelques jours du dénouement, les négociateurs du monde entier discutent en ce moment même à Dubaï sur l'avenir du pétrole, du gaz et du charbon. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant aux tensions entre le Venezuela et le Guyana au sujet de la région de l'Essequibo. Elle se trouve, cette région, à la frontière entre les deux pays et le Brésil, qui partage des frontières également au nord avec le Venezuela et le Guyana, joue un rôle de médiation. Daniela Franco, de la rédaction brésilienne. Tout d'abord, quel est le motif précis de cette tension concernant l'Essequibo?
Bon, Philippe, l'Essequibo est une région de 160 000 km² sous l'administration du Guyana et qui fait frontière avec le Venezuela. Cette région représente plus de 70% du territoire total du Guyana et est très riche en pétrole et minéraux. La dispute autour de l'Essequibo n'est pas nouvelle. Il y a des siècles que le Venezuela et le Guyana revendiquent ces territoires. En résumé, à l'époque où le Venezuela faisait partie de la colonie espagnole, l'Essequibo appartenait à l'Espagne. Quand le Venezuela a obtenu son indépendance en 1811, l'Essequibo est resté sous le domaine de Caracas. Et à peu près à la même époque, le Royaume-Uni a acquis le domaine du Guyana avec l'Essequibo. Et les disputes entre le Royaume-Uni et le Venezuela vont se dérouler jusqu'à 1899, quand la Cour d'arbitrage de Paris va donner raison aux Britanniques. Mais Caracas ne va jamais accepter cette décision et les différends vont continuer après l'indépendance du Guyana en 1966.
Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, aucune solution n'a véritablement été trouvée?
Malheureusement, non. Ces dernières décennies, le Venezuela et le Guyana recourent à des mécanismes de l'ONU sans succès. Pendant le gouvernement du président Hugo Chavez, entre 1999 et 2013, la dispute a été archivée parce que Chavez avait une bonne relation avec les dirigeants du Guyana. Mais à partir de 2015, des dizaines de réserves pétrolières sont découvertes à l'Essequibo et les différends sont donc ravivés, Philippe.
Et pourquoi est-ce que les tensions remontent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un motif précis?
Il y a des raisons économiques, bien sûr. Tout le monde sait que le Venezuela affronte une grave crise économique depuis des années. Mais il y a des raisons politiques aussi. Le Venezuela va réaliser des élections présidentielles en 2024 et le président Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, va se candidater à nouveau. Donc, il essaie de créer une ambiance d'union nationale avec la dispute de l'Essequibo. Et sur ce sujet, on va écouter la politologue brésilienne Carolina Pedroso.
Então, existe o interesse político mais imediato do governo Maduro, por lado,
suscitar ou Maduro.
Tout à fait. Carolina dit, Philippe, qu'il y a un intérêt immédiat de Maduro à la création d'un sentiment nationaliste pour unir les Vénézuéliens. Et en même temps, cette stratégie détourne l'attention de la crise démocratique au Venezuela. Elle rappelle aussi que quand les régimes autocratiques comme celui de Maduro affrontent des situations critiques, ils créent des conflits pour garantir la cohésion interne qui puisse les soutenir au pouvoir. Et je vous rappelle aussi que dimanche dernier, le Venezuela a réalisé un référendum et 95% des électeurs se sont dit favorables à l'annexion de l'Essequibo. Cette semaine, le gouvernement vénézuélien a présenté plusieurs mesures, y compris la nouvelle carte du Venezuela avec la région de l'Essequibo annexé.
Et pour sa part, le Guyana a interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit en ce moment même, puisque là il est 2h, c'est le début de l'après-midi à New York, pour traiter donc de cette question d'Essequibo. Et le Brésil a assumé une position de médiateur.
Exactement, Philippe. Le Brésil est la principale économie de l'Amérique du Sud. Il compte sur une tradition diplomatique pour résoudre des conflits. Brasilia a par ailleurs de très bonnes relations avec le Guyana et le président Lula est très proche de Maduro. Le Brésil a aussi une légitimité plus importante pour faire cette médiation parce que le pays fait frontière avec le Venezuela et le Guyana. Hier, au sommet des chefs d'État du Mercosur à Rio, les pays qui intègrent les blocs et d'autres pays qui participaient du sommet aussi, ont exprimé leur préoccupation avec la montée des tensions dans la région de l'Essequibo. Et le président Lula a même dédié une partie de son discours à cette question. Je vous propose qu'on écoute.
O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação.
Qu'a dit le président brésilien?
Lula dit que le Mercosur ne peut pas ignorer cette situation. Il souligne que les pays sud-américains ne veulent pas que cette question menace la paix et la stabilité de l'Amérique du Sud. Il dit aussi que d'autres instances régionales, comme la CELAC, qui est la Communauté des États latino-américains et caraïbes, l'UNASUR aussi, l'Union des Nations sud-américaines, doivent être utilisées pour résoudre la question de façon pacifique. Et Lula met le Brésil, son corps diplomatique, à disposition pour siéger toutes les réunions possibles afin de résoudre ces différends entre le Venezuela et le Guyana. Philippe.
Et bien évidemment, la rédaction brésilienne de RFI surveille avec attention ce qui se passe dans cette région où pourrait avoir une guerre si les choses s'enveniment. C'était donc Daniela Franco de la rédaction brésilienne. En Guinée-Bissau, il y a cette étrange affaire qui défraie la chronique. L'autre semaine, deux membres du gouvernement ont été mis en garde à vue dans un commissariat de la capitale, Bissau, dans lequel des militaires ont fait irruption pour les exfiltrer. Alors cette opération commando a donné lieu à des échanges de tirs qui se sont prolongés jusqu'au petit matin entre la garde nationale et les militaires du palais présidentiel. Katharina Falcao, de la rédaction lusophone, racontez-nous la suite de cet épisode rocambolesque dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Et après, dernier, les faits se sont précipités après les affrontements qui ont fait 2 morts parmi les militaires guinéens. Les écoles ont fermé, les membres du gouvernement sont retournés en prison, les téléradios ont été occupés par des militaires, le président a décidé de dissoudre le Parlement, à peine élu en juin, et promet un nouveau gouvernement d'initiative présidentielle pour la semaine prochaine.
Alors, on n'en est pas encore là, revenons un peu en arrière. Pourquoi ces membres du gouvernement étaient-ils en garde à vue ?
Déjà, la police enquêtait sur les virements faits à des hommes d'affaires proches du gouvernement, dont le ministre des Finances, Souleymane Sidi, et son secrétaire d'État, Antonio Monteiro, répondaient à ce moment-là aux questions de la police judiciaire. Au Parlement, Souleymane Sidi avait déjà essayé d'expliquer qu'il y avait des paiements urgents à faire pour, par exemple, empêcher les coupures d'électricité à Bissau à la suite du paiement de l'énergie. Il faut dire aussi que le ministre avait dénoncé en septembre, un mois après avoir été nommé, que le pays avait dépassé des limites d'endettement ces dernières années.
Un mois après avoir été nommé, ça veut dire que le gouvernement a été installé récemment?
Oui, très récemment. La Guinée-Bissau a eu des élections en juin et une forte majorité a été attribuée par les citoyens guinéens à la coalition Pays Terre Rinca, composée entre autres partie par le PAIGC. Ces élections ont mis une fin au gouvernement sous la coupe du président Omar Sissoko-Embalo et ont déterminé une période de cohabitation inédite en Guinée-Bissau.
Comment est-ce que le président a réagi à ces événements?
Ce jour-là, il était à Dubaï pour la COP. Et quand il est rentré, il a convoqué un conseil d'État pour lundi et a décidé de dissoudre le Parlement pour considérer que c'était une tentative de coup d'État échouée. Pour Embalo, le Parlement, où la majorité n'appartient plus à son parti, est le focus de tous les problèmes institutionnels du pays. On va l'entendre.
Le Kabagos est réuni au Conseil d'État. Il tombe la décision de dissoudre le Parlement. Pas bien de...
Aidez-nous à comprendre.
Bon, en fait, il annonce à la portugaise la fin de la plaisanterie, voire la fin de ce gouvernement. Il compare cette situation à des autres coups d'État du passé, notamment celui qui a eu lieu le 1er février 2022, bien sûr, une tentative, où, prétendument, un groupe d'hommes cangoulés a essayé de rentrer dans le palais du président. Celui-là s'est terminé aussi en la dissolution du Parlement.
Alors, qui tient le président le président considère que c'est qui est responsable de cette tentative de coup d'État il y a une semaine? Je vais y arriver.
Voilà. Non, c'est compliqué, même pour nous. Il dit que c'est la faute du président du Parlement, son éternel rival, Domingos Simões Pereira, aussi dirigeant du PAIGC, parti majoritaire du gouvernement. Il aurait mandaté la garde nationale pour engendrer un coup d'État. De son côté, Simões Pereira a dénoncé un coup constitutionnel parce qu'il n'est pas possible d'y dissoudre le Parlement qui vient d'être élu. Si on suit la Constitution, il faut attendre au moins une année pour garantir la stabilité institutionnelle du pays. On va écouter Domingos Simões Pereira.
L'Assembleia Nacional Popular tem que continuar o seu funcionamento, porque eu já lhe citei as duas normas, o artigo 8 e o artigo 94.
On vous écoute.
Le PAIGC a dénoncé entre-temps que son siège a été fouillé par des militaires.
Fouillé.
Plusieurs armes de guerre ont été saisies et au moins 70 personnes sont en garde à vue en liaison avec cet épisode. Là, on écoute Domingos Simões Pereira qui nous a donné une interview hier. La CDAO, la communauté régionale, la CPLP, l'Organisation des pays de langue portugaise et des autres organisations internationales, ainsi que plusieurs pays lusophones, ont fait un appel au calme et à la retenue pour la résolution pacifique de la situation. Mais la population de Guinée-Bissau a presque l'habitude de ce genre de cycle politique instable. Depuis l'indépendance du pays, aucun gouvernement a fini son mandat, comme nous explique le politologue guinéen Diamantino Lopes en interview à l'IGENGE.
Estamos perante mais um ciclo vicioso de crise política que ao longo do tempo tem se verificado no país.
Alors, que explique-t-il?
Il nous dit que dans certaines définitions politiques, le peuple vit dans un certain conformisme et qu'ils vont attendre de voir comment se passe la dynamique entre le président et le PAIGC.
Encore une chose, le président Umaro Sissoko Embalo a accordé une interview à nos confrères de France 24. Il y a dit quoi?
Il a annoncé qu'il y aura un nouveau gouvernement la semaine prochaine et a accusé directement Domingos Simões Pereira d'avoir préparé la tentative de coup d'État. Au même temps, il a évoqué certains arguments pas forcément exacts, en faisant même une analogie entre le système en Guinée-Bissau et celui qui existe en France. Non, la Guinée-Bissau n'est pas un système présidentialiste et le gouvernement existe séparément du président. RFI a parlé ce jeudi, comme je vous avais déjà dit, avec Domingos Simões Pereira. Du coup, on a aussi demandé une interview avec le président, mais pas de chance pour l'instant. Nous avons l'information que Pereira sera convoqué par le ministère public pour répondre de cette tentative de coup d'État. Pour l'instant, il nous a garanti qu'il n'avait pas connaissance de cette démarche.
Catarina Falcao de la rédaction en portugais de RFI. Un peu de lecture à présent, qui nous est proposée par la rédaction en espagnol. Quand la littérature traite du changement climatique. Dans « 100 ans de solitude », le chef-d'œuvre du prix Nobel Gabriel García Márquez, l'écrivain colombien raconte les transformations de la région tropicale où a été fondé le mythique village de Macondo, dès l'arrivée des premiers habitants jusqu'à sa décadence. Ubaldo Bravo, comment la lecture de ce roman peut nous aider à mieux comprendre ce qu'est le changement climatique ?
Alors, plaire et instruire en même temps, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'écrivain colombien. On les voit notamment dans l'histoire des 100 ans de solitude, les marécages transformés par les habitants de Macondo. Tout au long d'un siècle, c'est le récit qui pourrait bien expliquer les causes et conséquences du changement climatique. Mais il en va autrement pour les études scientifiques. Avec ces informations très pointues, ces textes qui sont les plus importants pour expliquer les changements climatiques ont du mal à sensibiliser le grand public aux enjeux de ces phénomènes. C'est la littérature qui aurait donc le pouvoir de rendre visibles ces problèmes, c'est ce qui constate le chercheur danois Gregers Andersen dans son livre « Climate Fiction and Cultural Analysis ». Les différentes transformations qui se passent dans l'histoire des 100 ans de solitude en seraient donc un exemple pour imaginer et pour garder à l'esprit pourquoi l'humanité est à l'origine de ces problèmes et comment serait notre planète si on ne fait pas assez d'efforts. Charlie Damour est chercheur à l'Université de La Réunion. Il est spécialiste de l'œuvre du romancier colombien. Dans une étude, il détaille comment les personnages de cette histoire vont transformer la région imaginée par les prix Nobel colombiens. Je vous propose de l'écouter et je vous invite à vous laisser emporter par les sons des tropiques.
En los tiempos de la Fundación, Macondo es una especie de microcosmo paradisiaco confundible con el jardín edénico donde todo es pureza e inocencia.
Alors où est-ce que Charlie Damour nous a-t-il emmené?
Il nous amène à la fondation même de Macondo, quand il n'était qu'un village d'une vingtaine de maisons. Les premiers habitants vivaient dans un microcosme paradisiaque en harmonie avec la nature, nous dit les chercheurs. Cependant, chaque année, au mois de mars, une famille de gitans visitait le village et apportait les dernières inventions technologiques. Les gens s'étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient et ils pensaient que dans le monde, des choses extraordinaires étaient en train de se passer. Tandis qu'ils étaient isolés et en retard. Mais ces sentiments changent complètement lors de la construction du premier chemin de fer. Les habitants sont donc connectés avec le monde et le paysage de Macondo changera pour toujours. Écoutons cette partie de l'histoire lue par notre collègue Orlando Torricelli.
El miércoles llegó un grupo de ingenieros que durante varias semanas exploraron donde Mr. Herbert cazaba mariposas.
Oula, on a entendu Orlando, mais là, qu'est-ce qui se passe?
Alors, les habitants de Macondo se sont posé la même question lorsque les trains arrivaient, plein à craquer avec des gens venus des quatre coins de la planète.
Pourquoi est-ce que les gens se déplacent à Macondo? Qu'est-ce qui les attirait?
Vous n'allez pas le croire, ce sont les bananes qui attirent le monde entier.
Les bananes, comment ça?
En effet, c'est un Américain appelé Mr. Herbert qui découvre ici les bananes. Il est étonné par sa saveur et il partage ses découvertes avec son compatriote Jack Brown, directeur de la United Fruit Company. Les Américains installent alors une industrie bananière qui se développe de manière vertigineuse. 8 mois après l'arrivée de Mr. Herbert, les habitants de Macondo ne reconnaissent plus leur région. La compagnie américaine change la trajectoire de la rivière, comme peut-on le lire dans les romans. Elle modifie le régime des pluies et le cycle de récolte. À l'échelle industrielle, la culture de la banane attire les gens du monde entier. Néanmoins, les Américains surexploitent les ressources de cette région ainsi que ses habitants. Face aux mauvaises conditions de travail, au manque de services de santé et à la corruption des autorités locales, qui sont par ailleurs contrôlées par la compagnie américaine, les habitants décident de faire une grève pour mettre fin à la United Fruit Company. Écoutons cette partie de l'histoire lue par notre collègue Asbel López.
Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados.
Racontez-nous.
Alors, c'est la fin de Macondo parce que la United Fruit Company démantèle ses installations et quitte Macondo. Suite à cette tragédie, s'ensuit une autre tragédie car dès que les Américains quittent la région, un puissant déluge frappe la population de plein fouet. Je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais j'espère que la fin de la planète ne soit pas comme celle racontée par Gabriel García Márquez dans « 100 ans de solitude ».
Ubaldo, bravo. Et j'ajoute que ceux qui parlent espagnol peuvent écouter l'intégralité de ce magazine sur le site de RFI en espagnol dans la rubrique « Environnement ». C'était Accent du Monde sur RFI. Merci d'avoir été avec nous.